Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
8h40, la revue de presse avec Adeline François et dans la presse ce matin, de la morgue à la maternité.
C'est un spectacle à la portée de toutes les bourses que se payent gratuitement les passants pauvres ou riches. Lorsqu'il y a un bel étalage, les visiteurs se pressent et se donnent des émotions à bon marché. De quel spectacle parlait ainsi Émile Zola dans Thérèse Raquin? Eh bien, il parlait de la morgue de Paris. C'était place du Châtelet. Et il racontait comment, au XIXe siècle, l'ancêtre de l'Institut médico-légal de Paris était en fait un lieu de promenade très prisé. On venait y contempler les dépouilles des personnes retrouvées mortes sur la voie publique ou noyées dans la Seine. La police les exposait dans l'espoir que quelqu'un viendrait les identifier. Reportage édifiant de la revue 75 du mois d'avril. En réalité, les gens venaient, même quand ils n'avaient personne à reconnaître, juste pour le plaisir de voir des morts exposés sur 12 tables de marbre noir inclinées. On entrait là comme dans une baraque de foire, chapeau sur la tête, pipe à la bouche. On laissait même venir les enfants. On entendait des propos les plus grossiers, les réflexions les plus ignobles. Il faudra attendre 1907 et un décret du préfet de Paris, Louis Lépine, pour que la porte de la morgue soit enfin fermée au nez des curieux. La mesure fera d'ailleurs bondir les commerçants du quartier qui profitaient largement de ce tourisme mortuaire et qui iront jusqu'à demander une remise partielle d'impôts qui leur sera refusée. C'est à lire dans la revue 75.
Dans la presse, ce matin, Salah Abdeslam.
Oui, le Point.fr publie ce matin des courriers écrits avec une certaine morgue par le terroriste présumé, seul rescapé des commandos du 13 novembre. Il les a rédigés pendant sa cavale et les avait abandonnés dans la planque où il a été arrêté près de Bruxelles. Ces lettres viennent d'être transmises à la justice française et offrent, selon le Point, un éclairage inédit sur les motivations de celui qui refuse toujours de répondre aux questions des juges. Et on comprend effectivement entre les lignes qu'Abdeslam pensait ne pas sortir vivant de sa cavale. La première lettre est adressée à sa mère dans un français approximatif, avec beaucoup de fautes d'orthographe. Les explications sont confuses et irrationnelles. « Je t'écris cette lettre, maman, en espérant que tu me pardonneras. » Abdeslam dit avoir agi pour protester contre ceux qui tuent avec leurs avions comme des lâches et ceux qui se sont permis de dessiner et d'insulter notre prophète. Une deuxième lettre est adressée à sa petite sœur. « J'imagine que ça doit pas être facile pour toi d'être séparé de tes deux frères. En plus de ça, tout le monde nous traite de terroristes. Prends soin de nos parents, à bientôt dans une nouvelle vie. » C'est donc à lire sur le point.fr.
Vivre et mourir en Guyane à présent.
Oui, comment en est-on arrivé là, se demande ce matin Lacroix. Un sociologue résume la situation de la Guyane en parlant du désastre des 3,50%. La moitié de la population a moins de 25 ans. La moitié des jeunes est sortie du système scolaire sans diplôme. La moitié d'entre eux est au chômage. Et puis il y a le sol. Le territoire de la Guyane est recouvert à 90% par la forêt et pourtant, la Guyane importe du bois. Manque de routes pour exploiter les forêts, absence d'écoles de formation au métier du bois. La Guyane qui fait la une aussi de l'Humanité ce matin, ces services publics exsangues qui mettent les Guyanais dans la rue. Le journal a choisi un autre symbole pour illustrer le désengagement de l'État, c'est l'hôpital de Kourou. Menacé de privatisation, il est au centre des luttes sociales qui secouent la Guyane et il met surtout en lumière la crise sanitaire profonde qui touche tout le territoire. Imaginez l'Autriche doté seulement de 3 hôpitaux. Eh bien, à superficie égale, c'est le cas de la Guyane. Ici, on manque de tout en matière de santé. La mortalité infantile est 4 fois plus élevée qu'en métropole. Certains AVC ne sont pas traités, explique un médecin, car les temps de transport sont trop longs. Le seul service de réanimation est à Cayenne. On ne vit pas sur les lisières de l'Amazonie. On y survit et on y meurt aussi plus vite qu'à son heure, écrit Denis Domin dans La Nouvelle République ce matin. Loin des yeux, loin du cœur, nous avions faim de l'oublier, la réalité ressurgit, tenace et obstinée. Triste tropique, comme l'écrit Pascal Coqui dans les DNA.
On termine avec le foot.
Oui, avec un souvenir ce matin de l'Euro de football l'été dernier. Alors pas le souvenir du fiasco de l'Espagne que la France va affronter ce soir, non. Un autre souvenir, celui-là. Le clapping de l'équipe d'Islande qui venait de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro. Et pourquoi on en reparle ce matin? Parce que l'Islande avait battu l'Angleterre le 27 juin. Tout le pays avait alors basculé dans la joie, mais alors pour le coup vraiment basculé. Le 27 juin, c'était il y a pile 9 mois. L'équipe.fr publie ce matin le tweet posté il y a quelques heures par un obstétricien islandais qui vient de battre son record de péridurale. Depuis dimanche, l'Islande connaît un baby-boom sans précédent, avec sans doute une recrudescence de Ragnar et de Kolbein, les prénoms des 2 buteurs islandais, il y a 9 mois.
C'était la revue de presse d'Adeline François, porteuse de bonnes nouvelles, si j'ai bien compris. Pour conclure, merci beaucoup